Un député conservateur avait déposé une pétition au nom des Canadiens qui demande au gouvernement d'adopter une loi pour protéger les droits des fœtus. C'est la troisième fois en 6 mois qu'il dépose cette pétition-là. Il est assez persistant. Et c'est ce qui semble avoir motivé la ministre à se confier sur l'expérience qu'elle a vécue. Elle est avec nous pour en parler. Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Bonjour à vous.
Bonjour, Mme Kate.
D'abord, peut-être mettre en contexte, on va parler évidemment de ce que vous avez vécu à l'âge de 18 ans, mais si on parle de ce qui est arrivé à la période de questions hier, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a mené à cette déclaration que vous avez faite?
Oui. En fait, on avait prévu comme gouvernement de poser des questions pour mettre en lumière, si vous voulez, le fait que notre gouvernement, on a toujours été, on sera toujours pro-choix, et ça a toujours été la position du gouvernement. Ce qui m'a amené à aller plus loin, si vous voulez, à partager mon expérience personnelle, c'est que le gouvernement conservateur, donc un des membres de l'opposition du Parti conservateur, venait de déposer pour une troisième fois une pétition qui visait sensiblement à questionner la vie d'un fœtus et donc faire un peu par la porte d'en arrière, remettre en question le droit à l'avortement. Et je me suis dit, je peux pas juste dire que je suis pro-choix, je dois démontrer que je suis pro-choix. Parce que pour combattre ou en fait protéger les droits des femmes, il faut avoir, je pense, comme femme, le courage de briser les silences puis les tabous. Et c'est encore tabou, la question de l'avortement. Je vous passe les commentaires que j'ai reçus depuis hier. Il y en a des très bons, puis il y en a des moins bons, bien sûr. Mais ça démontre à quel point c'est un sujet encore qui fait actualité parce que les droits des femmes demeurent toujours un enjeu qu'il faut défendre. Puis ça me confirme encore une fois que j'ai fait la bonne chose hier.
Et moi, je vais vous dire, je vous trouve extrêmement courageuse parce que dans mon entourage, j'en connais des femmes qui se sont faites avorter et leur propre famille n'est même pas au courant. Pour vous donner une idée, là, c'est un secret qu'elles portent. Il y a une honte qui vient avec ça. Vous, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui l'ont appris hier ou tout le monde était pas mal au courant? Ou?
Moi, j'avais envoyé un message à ma mère, à ma tante, les femmes proches de moi. Mais je dois vous avouer que oui, sûrement qu'il y a des gens qui l'ont su, mais ça revient à ce que vous venez de dire. C'est que tant et aussi longtemps que les femmes vont se sentir jugées, vont se sentir sales ou criminelles à la limite par les genres de commentaires qu'on soit sur les médias sociaux, suite à une sortie comme celle que j'ai faite hier, mais le droit à l'avortement et ce droit de libre choisir sur l'avenir de notre propre corps va demeurer un enjeu extrêmement important à défendre et malheureusement fragile. On le voit dans d'autres pays dans le monde actuellement, que ce droit-là, juste au sud de notre frontière, jamais on n'aurait pensé qu'on en serait rendu là. Mais il y a des États dans le sud de la frontière qui veulent remettre même la peine de mort sur la question de l'avortement. Je pense que c'est rendu loin, puis c'est pour ça que j'ai voulu briser ce silence et ce tabou.
Et si on revient sur ce que vous avez vécu à l'âge de 18 ans, donc si on remet un petit peu en contexte, donc vous étiez au Canada, c'est après le départ de Pinochet, vous décidez de retourner au Chili pour un peu, comme vous l'avez dit, reprendre ce que la dictature vous avait enlevé. Et c'est au moment où vous retournez au Chili que vous apprenez que vous êtes enceinte, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Et au Chili, à ce moment-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est illégal de se faire avorter?
Oui, exactement. Aujourd'hui, en fait, la loi au Chili a changé en 2017. C'est quand même assez récent, mais
c'est restreint très, encore. Ouais.
C'est restreint, exactement. Très restreint sur le droit à l'avortement. Donc, il faut qu'une femme ait un viol, qu'elle soit en danger de vie, bon, etc. Fait que c'est très, très, très restreint. Donc, c'est pas une liberté totale, là, pas du tout. Et donc, imaginez-vous, à l'époque, dans les années 90, encore moins, les femmes pouvaient aller en prison au Chili si elles se faisaient avorter illégalement. C'était considéré comme un crime et donc passible de d'emprisonnement. Et donc, j'ai dû faire un choix. Et le choix que j'ai fait, c'était de revenir au Canada parce que le pays qui m'offrait cette liberté de choisir, c'était le Canada. Et ça faisait quand même... C'était assez récent aussi au Canada qu'on avait eu ce droit-là. Vous vous souvenez, c'était en 1988 à peu près. Donc, c'était quand même assez récent. Mais le Québec avait été quand même précurseur. Le Québec avait déjà, depuis plusieurs années, financé des cliniques de planification familiale. Il y avait déjà une culture, je te dirais, de liberté de choix, beaucoup plus, j'étais beaucoup plus ouverte là-dessus et je pense avoir été dans ma vie chanceuse dans la mesure où j'ai pu faire ce choix assez librement à un jeune âge.
Et à cette époque-là, quand vous avez su que vous étiez enceinte, vous en avez parlé avec votre tante qui vous avait dit, bon, ben évidemment, mm-hmm. tu le sais, c'est illégal ici. Est-ce qu'il y a d'autres mm-hmm. membres de votre famille au Chili qui est au mm-hmm. courant de votre plan? Puis je pose la question parce que il y a souvent les gens qui habitent dans des États ou dans des endroits mm-hmm. où l'avortement est illégal, mm-hmm. ces valeurs-là sont parfois un peu imprégnées en eux aussi. Ils finissent mm-hmm. par eux-mêmes être mm-hmm. un peu contre l'avortement finalement. Mm-hmm. Est-ce que c'était difficile d'en parler mm-hmm. à votre famille?
Oui, parce que je vais vous avouer que ma propre tante est une femme qui a grandi dans une culture religieuse catholique et pour qui, pour elle-même, c'était un... Elle n'est pas non plus pro-choix. Elle est plutôt dans le camp des pro-vie. Ouais. Mais elle m'a même accompagnée dans la mesure où elle n'est pas ma mère, elle est ma tante. Et elle m'a, je pense, j'ai été très bien accompagnée par une famille, une femme à ce moment-là qui a pensé à moi et pas à ses propres convictions à elle. J'ai été chanceuse dans quand on y pense. Mais moi, aujourd'hui, ce qui me semble tellement important, c'est d'avoir... Écoutez, les messages que j'ai depuis hier sont incroyables. Et je pense que ce qui est important, c'est donner le courage aux femmes d'en parler haut et fort, parce que la seule façon qu'on va protéger ce droit fondamental, c'est qu'on va y enlever le jugement social qui est attaché à ça, puis qu'on ne va pas être perçu comme des femmes irresponsables, des femmes qui ne pensent pas à cet enfant mmh. qui est en aide. C'est pas ça. Et je pense qu'on doit préserver ses droits. Et pour ça, ben il faut y enlever cette lourdeur de jugement qui est portée. Les gens depuis hier me disent « Oh, t'es tellement courageuse d'avoir fait ça ». Moi, sincèrement, je me dis, si un homme, l'autre côté de la chambre, conservateur qui se donne le droit de remettre en question mon droit fondamental comme femme, mais moi j'ai le devoir de libérer la parole des femmes puis de dire, ben, dans l'institution qui est le Parlement du Canada, ben, de dire haut et fort que les femmes, et si vous regardez les statistiques, je suis convaincue qu'il y a d'autres femmes dans le Parlement, c'est impossible.
Ah oui, probablement.
Vous l'avez dit vous-même. Mm. Donc, il faut se donner ce droit de parole qui est fondamental à la défense de notre droit.
Et dernière question pour vous. Vous avez parlé, évidemment, d'une vague de commentaires mmh. positifs que vous avez reçus, mmh. mais vous avez aussi reçu, mmh. j'imagine, des commentaires négatifs.
Oui. Je veux dire, c'est inévitable. Le lobby pro-vie est quand même très fort. La montée de l'extrême droite au Canada est quand même présente. On le sent. Ce qui se passe au sud de la frontière, il y a un danger aussi par rapport à cette politique très partisane de droite qu'on sent aussi au Canada. Et je vous dirais que les messages que je reçois depuis hier sont assez surprenants.
C'est incroyable quand même. Mais je salue encore une fois votre courage, Mme Martinez-Ferrada, puis je suis convaincue que vous avez inspiré aussi plusieurs femmes depuis hier par votre témoignage, plusieurs femmes qui vivent dans la honte et la culpabilité d'avoir subi un avortement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci de votre invitation, Mme Craig.
Merci. Bonne journée. C'était Soraya Martinez-Ferrada. Elle est ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
Bonjour, ici Jean-Claude Gélina. Je vous invite à ne pas manquer en semaine sur CFIX FM 93. Rimouski, les petites vitres.
La Cérutech, un choix gagnant pour tous vos besoins en matière de sécurité de serrure et quincaillerie industrielle. Besoin d'une nouvelle clé? Pas de problème. Nous sommes la référence à Rimouski. Vous avez perdu votre clé de voiture? Pas de panique. Nous avons la plupart des modèles sur le marché et de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Avec notre service mobile, c'est maintenant le serrurier qui se rend jusqu'à vous pour tout type de travaux. La Cérutech, nous pouvons vous aider. 396 2e rue Est à Rimouski, 418-731-0998.
FM 93, fier de desservir la capitale du Bas-Saint-Laurent.
Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 10 mai 2024. Le maire de Saint-Narcisse, Mario Gartin, annonce sa démission effective immédiatement. Sur une publication Facebook, le maire s'est dit déçu et ébranlé de certains événements survenus particulièrement lors de la dernière assemblée du conseil municipal. Il dénonce même le manque de transparence de certains collègues du conseil municipal. Cette situation a amené le maire à réfléchir sur son avenir. La réponse est venue ce matin. La démission du maire de Saint-Narcisse s'ajoute à la longue liste de quelques 800 élus municipaux qui ont remis leur démission depuis les dernières élections. La Fondation de l'Institut maritime du Québec annonce l'appui financier majeur de groupe CSL avec un don de 100 000 $ dans le cadre de la campagne majeure de financement. La Fondation se dit fière de compter le groupe CSL parmi ses donateurs et partenaires de la catégorie Le Grand Périple de sa campagne majeure visant à amasser 2,5 millions de $. Cette collaboration vise à soutenir les activités de la Fondation et à encourager la formation de futurs marins, technologues en architecture navale et logisticiens. La Fondation concrétise différents projets qui soutiennent les étudiantes et étudiants, notamment des bourses. Le Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent annonce que des travaux sont en cours afin de compléter le futur point de service local de Rimouski au 217 avenue Léonidas Sud. Les services de prélèvement, de vaccination et de dépistage y sont toujours offerts, mais l'accès se fait par deux nouvelles entrées pour la durée des travaux. Ainsi, les personnes qui se présentent pour un prélèvement doivent emprunter les portes numéro 3, 4 et 6 du côté nord de l'édifice. Celles qui s'y rendent pour la vaccination et le dépistage doivent utiliser la porte 8 du côté sud de l'édifice. Et enfin, les centres de formation professionnelle de Montjolie et de Rimouski invitent la population à se rendre visiter leurs quatre établissements d'enseignement lors d'une activité porte ouverte ce samedi 11 mai de 10h à 16h. Une programmation diversifiée attend les visiteurs qui vont découvrir les formations offertes et leurs possibilités de carrière. Dans la Métis, la visite se déroule au centre de formation professionnelle Montjolie-Métis à la ferme-école et à l'atelier de mécanique agricole. À Rimouski, la visite se déroule au centre de formation professionnelle. C'était Pierre Michaud pour vos informations.
CFIX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFIX FM 93. Arts et spectacles. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. Baby, promise me you'll hold me again. I'm still broken from this hurricane.
Wow!
Belle voix, hein?
Ben, c'est beau, ça.
Je trouve que la voix ressemble un peu à celle de Lady Gaga. Je sais pas
hey,
pourquoi.
T'as raison.
Oui. Elle s'appelle Aiden Golan. C'est la candidate qui représente Israël, qui, jeudi, s'est qualifiée pour la finale.
Ça brasse à Eurovision.
Ça brasse fort à Eurovision.
Israël.
Ça fait une semaine qu'on en parle, justement, à quel point le concours... Il y a tout le temps une polémique qui est liée. L'année dernière, c'était la Zara, la Québécoise.
Oui, je me souviens. Ben oui, t'as raison.
Et l'année d'avant, je pense que c'était lié avec la guerre en Ukraine et la Russie. Et là, cette année, ben, c'est le conflit entre Hamas et Israël qui dérange tout le monde. Bonjour, Henri Arnault.
Bonjour Catherine Elisabeth, bonjour à tous.
Henri, je sais que tu te diriges vers le concours Eurovision, mais raconte-nous un peu jusqu'à quel point les tensions ont évolué depuis la semaine dernière.
Pour tout te dire, je m'étais dit, bon allez, cette année c'est pas grave, j'ai fait l'Eurovision plein de fois, je peux aller à Cannes directement pour le festival. et hier, en voyant le grabuge qu'il y a à Malmö en ce moment, je me suis dit, bon allez, un vol direct pour Copenhague, c'est à une demi-heure de Malmö en Suède, allons-y. Alors littéralement, ça fait à peu près 10 jours maintenant que tous les concurrents sont en Suède pour les répétitions, et la moutarde a commencé à monter. Le chanteur des Pays-Bas a refusé d'être assis dans la salle des candidats à côté de la chanteuse d'Israël. Et les organisateurs ont dit, si vous voulez pas venir, vous répétez pas. Et puis il y a eu des manifestations dans Malmö avec énormément de drapeaux palestiniens. On en a parlé tous les deux ensemble, Catherine, il y a quelques jours. Même l'armée a été appelée en renfort. Et il y a 2 jours, la police du Danemark, alors réellement Malmö est presque à la frontière entre les deux pays, a proposé à son voisin suédois de venir les épauler pour contrôler les débordements possibles demain. Donc c'est vrai que ce concours de la chanson qui se veut une grande fête de la musique depuis quelques années, c'est polémique après polémique. Et puis justement, c'est ce qui m'a décidé hier à me dire, allez, passe par l'Eurovision. C'est quand la candidate d'Israël a été sélectionnée pour la finale hier. Beaucoup de gens pensaient que ça ne se passerait pas. Je ne sais pas si ça s'est vu à la télévision, en Mondovision, mais elle a été huée lors de son arrivée sur scène. Donc c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans ce concours de la chanson. Et malgré tout ça, elle est sélectionnée. Et puis alors, ce matin, en voyant les pronostics, elle fait partie des deux.